libre. Voilà le thème de la Pâque. On a le choix entre ressuscité et libre. Et j'ai choisi pour ce culte libre. Si vous vous rappelez, en 2010, à 662 mètres sous terre, se trouvaient 33 mineurs à Saint-José du Chili. Et pendant 2 mois, ils ont dû attendre, prier certainement, espérer, mettre leur confiance dans les gens qui étaient 662 mètres plus haut pour qu'on les sorte de cette trappe dans laquelle ils étaient. Et grâce à l'intervention de la NASA, qui n'a pas envoyé une fusée, mais qui a fait participer à sa technique, un à un, dans un tuyau de 2 mètres par 60 de large, on a remonté ces 33 mineurs. Et en réfléchissant, je me suis dit quelles étaient leurs premières pensées quand la boîte s'ouvrait à l'air libre. Libre. Ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que Dieu n'a pas eu affaire à la NASA. Dieu a accompli quelque chose d'absolument extraordinaire il y a 2000 ans. Il nous a libérés. Libérés d'un poids, libérés d'une dette, libérés d'un obstacle que nous ne pouvions pas enlever. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si on se tourne vers cet événement d'il y a maintenant 2 ans, on peut voir avec quelle détermination Dieu a voulu que nous soyons sauvés. Nous n'étions pas ses amis, nous étions ses ennemis. Nous ne cherchions pas à le rencontrer, mais il voulait, lui, avoir une relation avec nous. Si on fouille l'histoire et qu'on essaye de retrouver le nom de ce que j'ai appelé les grands libérateurs, alors au XVe siècle, messieurs Vespucci et Colomb ont créé ce nouveau monde, ont aidé à libérer des hommes et des femmes pour créer ce qu'ils appelaient le nouveau monde. Il faut rappeler que M. Christophe Colomb, en bas de son pays, c'était marqué ici la fin du monde, en bas de l'Espagne. José Bolivar et José de San Martin, eux, au XVIIIe siècle, ont libéré l'Amérique du Sud. Ils ont amené des gens à être libérés d'un fardeau, d'un carcan, pour pouvoir habiter des pays libres. Et puis un petit peu plus proche de nous, et là les Antillais peut-être connaissent, Abraham Lincoln et Victor Schœlcher, pour l'abolition de l'esclavage. Et moi ce qui me fait trembler, c'est quand j'entends que l'esclavage est aboli. Et que je regarde certains pays, j'aimerais bien qu'on leur rappelle que l'esclavage est aboli. Mais je ne vais pas faire de commentaires. Le général de Gaulle, Nelson Mandela, et d'autres ont été des hommes incroyables qui ont amené les hommes à la liberté. Mais ces hommes et ces femmes vont mourir à nouveau. Et peut-être retenus par l'esclavage de leurs péchés. Alors ils ne vont pas atteindre la cible que Dieu avait mise pour eux. Si on remonte au moins 35 siècles, on trouve un certain Moïse qui est venu délivrer son peuple, le peuple de Dieu, mes amis, d'Égypte. Et on sait ce qui est arrivé à ce peuple d'Égypte, à cette génération qui aspirait tellement à sortir du pays d'Égypte et qui a péri dans le désert. C'est incroyable quand on regarde d'un côté la liberté et le résultat de la liberté. La liberté souvent qui nous est donnée ne nous permet pas de trouver la liberté en Christ. Mais avant tout, il y a Jésus. C'est le libérateur du monde. Et là, je ne fais pas d'universalisme, je ne dis pas que tous les hommes sont sauvés, mais tous les hommes peuvent l'être. Et malheureusement, tous les hommes ne le sont pas. Un libérateur différent. Dans Jean chapitre 19 et au verset 30, il est dit, quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit, c'est dans la majorité de vos versions, c'est le vinaigre, c'est du vin aigre. Jésus dit, tout est achevé. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Je ne sais pas si un reporter avait pu être là et noter le plus grand discours de Jésus. Alors on a usage de dire que le plus grand discours de Jésus se trouve dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Vrai ? Vous êtes d'accord ? Moi, je dirais ce matin que le plus grand discours de Jésus, il tient en trois mots. Tout est achevé. En grec, c'est un seul verbe. Tout est achevé. C'est le plus grand discours de Jésus. Il raccorde l'Ancien Testament à sa venue, à son sacrifice et à ceux qui vont pouvoir croire. Parce qu'il n'y a plus rien à faire pour être sauvé que de croire. Et c'est le plus grand discours. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, c'est un discours extraordinaire de Christ. C'est l'ensemble condensé de ce que Jésus a dit. Mais là, mes amis, en trois mots, il a changé la face du monde. On peut être rassuré qu'il n'y a plus rien à faire. Ce que les autres évangiles nomment comme un grand cri, c'est intéressant parce que Jean est le seul à rapporter cette phrase. Les autres évangiles disent « il a poussé un grand cri ». Peut-être n'était-ce pas si audible que ça. Mais en tout cas, Jean, vous rappelez, Jean, il était au pied de la croix, lui. Il n'avait pas disparu comme les autres. Et peut-être c'est pour ça, même bien des années plus tard, qu'il se rappelle de ce fameux cri. Tout est accompli. Quand quelqu'un arrive dans ses derniers jours, on aime bien souvent rapporter ses dernières paroles avant de mourir. Jésus, avant de quitter cette terre, avant de subir le fardeau qui était le nôtre, a pu prononcer ces trois mots. Tout est fait. Ma mission est arrivée à son terme. Elle a d'énormes répercussions, cette phrase. Je vous en propose trois. La première, c'est que pour pouvoir dire « tout est accompli », Jésus s'est soumis. Ah ça, c'est un mot. C'est le mot qui fâche hein, dans notre société, « soumis ». Bon, c'est vieux comme terme. C'est démodé, c'est poussiéreux. Maintenant, on n'est plus soumis. Ni Dieu, ni maître. Je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Jésus s'est soumis entièrement à son Père. Jésus a été envoyé avec une mission, ne pas faire sa volonté. C'est incroyable, mais la volonté de son Père. Il a été l'envoyé, le délégué. Il a été l'ambassadeur de son Père. Ce qui est intéressant, c'est que quand on découvre notre liberté, s'il y a un carcan qu'on veut enlever tout de suite, c'est soumission. Ah, je suis libre ! Mais ça s'arrête vite. Hein. Christ dit dans Jean chapitre 6, c'est encore Jean qui le rapporte. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et regardez bien, il précise verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. Et regardez, il reprécise, verset 40, « La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui, ait la vie éternelle, et moi je le relèverai au dernier jour. » Voilà la volonté du Père, c'est que personne ne se perde. Que tous ceux que Dieu a donnés, nul ne s'égare. Le grand berger, le bon berger, celui qui vérifie que personne dans le troupeau ne va partir, qu'il n'y a pas dans le troupeau des loups ravisseurs, des serpents qui se seraient infiltrés. Obéissance totale, pas partielle, pas un peu. Est-ce que j'ai carte blanche? Est-ce que j'ai le droit de modifier? Jésus a accompli à la lettre ce que les prophètes avaient dit, ce que son Père l'avait envoyé faire. Luc 24, 46, il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » On en a parlé vendredi avec ceux qui étaient là. Ça, c'est la chose que personne n'a voulu entendre pendant les 3 années. Qu'il souffrirait. Et qu'il allait mourir. C'est pas possible que Dieu meure. C'est pas possible que notre libérateur meure. Et pourtant, Jésus dit, il leur dit, ainsi il est écrit. Ça vous a été annoncé. Je ne suis pas venu pour rester. Jésus peut dire, tout est accompli. Parce que quand il prononce cette phrase, il a déjà souffert. Et là, il rend son âme à Dieu. Avec confiance. Parce qu'il sait que son Père ne va pas l'abandonner. Vous voyez que ces 3 mots, Jésus peut décemment le dire. Marc nous rapporte au chapitre 9, verset 12. « Élie viendra premièrement, il rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit que le Fils de l'homme, qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ?» On est surpris parfois, dans notre vie chrétienne, d'être rejeté, d'être bafoué, que les gens nous renient en disant « Oh là là, t'es une vraie grenouille de bénitier, toi. » Mais mes amis, notre maître, ne l'a-t-il pas été? Et il a dit « Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont martyrisé, ils vous martyriseront. S'ils m'ont renié, ils vous renieront. » Et on est surpris quand même. Ah ben si c'est ça la vie chrétienne, alors Jésus est venu l'accomplir en sachant, mes amis. Il a accepté de souffrir pour que nous ayons une qualité de vie personnelle avec lui et pour que nous ayons un espoir. Mais il n'a pas inventé les choses. Dieu dans son ciel souverain ne s'est pas dit d'un seul coup, tiens, je vais faire souffrir mon fils. C'était prévu d'avance. Il devait payer l'acte de justice. Matthieu nous dit, hein, vous avez vu, on a fait marche arrière de Jean, Luc, Marc. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Ni les femmes, ni ses disciples n'ont voulu imprimer cette page. Tous ont voulu croire que ça n'arriverait pas. Et c'est pour ça que, en ce vendredi pascal, quand Jésus est crucifié, tout le monde le quitte. Soit par doute, soit par ulcération. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui se passe? S'ils avaient regardé leurs notes qu'ils avaient prises aux études bibliques avec Jésus, ils auraient ressorti. Ah oui, tiens, il l'avait dit 3 fois. C'était annoncé. Le deuxième événement qui suit ces choses, c'est que si Jésus dit « ma mission est accomplie », regardez ce que Jésus dit dans cette fameuse prière qu'on appelle la prière du sacerdoce, avant que d'aller souffrir. Il parle à son père, il est en ligne directe. Il n'est pas chez Free. Il dit « je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire ». Mes amis, je vais nous poser une question un petit peu dure ce jour de Pâques. Si notre vie s'arrêtait aujourd'hui, c'est difficile comme message de Pâques. Serions-nous capables de dire « la mission que toi tu m'as donnée, Dieu, je l'ai accomplie ». Déjà, est-ce qu'on voudrait savoir quelle est la mission que Dieu m'a confiée? Et c'est intéressant, c'est qu'on passe toute notre vie à chercher ce que Dieu veut qu'on fasse. Comme ça, on est tranquille, quand on le rencontre, on dit « je ne savais pas le plan ». Tu ne m'avais pas dit. Mes amis, Jésus a pu dire à son père « Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre ». C'est important de savoir pourquoi Dieu nous a mis sur terre. Parce que quand on va le rencontrer, on va pouvoir lui dire des choses à notre Dieu. « Seigneur, j'ai accompli ce que tu m'as demandé de faire. » Matthieu chapitre 1, au verset 22, dit « tout cela arriva afin que s'accomplisse ». Combien de fois dans les textes on trouve ces mots, hein? « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. » Vous imaginez si tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient été là au pied de la croix, en spectateur. Ah ! Mais alors, tout ce que Dieu nous a demandé de dire, c'était donc bien vrai, mais ils en étaient sûrs, hein? Et ce qui est incroyable, c'est que on ne croit pas que l'Écriture est vraie. On a du mal avec certains passages. Il y a certaines pages de l'Évangile qu'on aimerait bien craquer. Certaines pages des Épîtres qu'on aimerait bien enlever. Parce qu'elles nous concernent de tellement proches qu'on se dit « Seigneur, on ne pourrait pas négocier là ?» Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Et regardez bien, Matthieu 2,15, il dit « il y resta jusqu'à la mort d'Hérode ». Vous vous rappelez la naissance de Jésus? Il est sorti, et là il est resté en Égypte, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Il n'a pas dit « hors de Nazareth ». C'est incroyable comment on arrive à faire des connexions quand on regarde les textes. Quand on écoute notre Seigneur, quand on lui dit, mais c'est incroyable qu'il ait pu dire. Hein, moi, je suis toujours ébahi quand je lis dans Acte 20, l'apôtre Paul, qui regarde les anciens d'Éphèse et qui leur dit, mes amis, je vous ai enseigné tout ce que vous aviez besoin. Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai tout dit. Et il dit 3 ans, nuit et jour. Hein. Ils n'étaient pas aux 35 heures, les anciens, dans l'église d'Éphèse. Matthieu 2,23, il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. On connaît les textes. Mais quand Jésus dit « tout est accompli », tout ce qui avait été annoncé par les prophètes, tout ce qui avait été annoncé par l'Ancien Testament, tout ce que Dieu avait annoncé, a été accompli. Et nous, Tout ce que Dieu nous demande, nous le faisons. Est-ce que nous pourrions paraphrer quelque chose? J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai été droit, j'ai été juste, j'ai été authentique. On aurait du mal à signer, hein. Troisièmement, le ciel est désormais ouvert. Ah, le ciel est désormais ouvert. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance qu'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans une pleine foi, confiance, ciel ouvert. Vous imaginez une porte ouverte. Oh, elle n'est pas gigantesque cette porte. Mais c'est la porte qui nous donne accès au ciel. C'était l'offrande parfaite. C'était la exactement ce que Dieu attendait. C'est ce que Dieu voulait. On a toujours un peu de mal à savoir ce que Dieu attend. Ce qu'on doit à Dieu, ce qu'on doit lui rendre. N'est-ce pas? Nos offrandes. Monétaires, le temps, notre corps, c'est ce que Dieu veut. Il nous veut nous. Pas un peu de nous, pas un peu de temps, il nous veut nous. Et une chose qui est ambiguë, quelque chose qui s'oppose, il était à la fois le rédempteur et il était la rançon. Vous vous rappelez, c'est déjà arrivé ça dans l'Ancien Testament. Un certain homme qui emmenait son fils en offrande. Et à un moment, le fils de s'interroger. « Mais dis donc, papa, c'est qui qu'on va sacrifier là-haut ? Il y a toi, il y a moi, et il y a moi, il y a toi. » Et qu'a répondu son père ? L'Éternel pourvoira. Mais là, mes amis, Jésus est le Rédempteur, il est le Sauveur du monde, et en même temps, c'est lui qui paye. C'est incroyable, non? Il n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de payer. Il n'y a pas eu de substitut. Matthieu chapitre 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Quelqu'un pourrait dire, Jésus s'est fait rançonner. Non, parce qu'il a donné sa vie volontairement. On ne lui a pas pris. Que ce soit ceux qui l'ont condamné, les autorités romaines, les autorités religieuses, personne n'a pris la vie de Jésus. Il a dit qu'il s'est donné, il a donné sa vie. Galates chapitre 1, verset 4, il est à propos de Jésus, il dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Il est la rançon et il est le rédempteur. Celui qui paye et celui qui rachète. Vous avez déjà essayé de comprendre? Des fois, il y a des choses qu'on a du mal à comprendre. Hein. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Il n'était pas juste pleinement homme, ou un petit peu homme et un petit peu Dieu. Il était pleinement homme, pleinement Dieu. Il avait tout pouvoir. Il pouvait éliminer de la planète les gens qu'il voulait. Mais Dieu, dans son amour, dans son respect, nous a rendus libres de choisir. Je mets devant toi la bénédiction, la malédiction, la vie, la mort, choisis. Et des gens font des choix. Et après, ils disent, oh, mais si Dieu est bon, il me changera. Non, 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 c'est mon choix. J'aimerais bien un jour voir cette fameuse émission, je ne sais pas si ça existe encore, c'est mon choix. Quand je vois les titres qu'il y a dedans, je me dis, je passe pas ma vie à la regarder. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'un jour, On parle de Jésus-Christ dans C'est mon choix. Si vous connaissez celui qui fait l'émission, vous dites, on a un pasteur, il a une idée. La justice, on a vu que rédempteur, rançon. Il y a un autre problème pour comprendre la Pâque, c'est que d'un côté, il y avait la justice, ce qui doit, et de l'autre côté, il y avait la grâce, ce que Dieu laisse. Romains 6, 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, c'est la justice. Mais le don de la grâce, et là c'est un pléonasme, hein, le don du don, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Jésus a accompli les deux. Il a accompli la justice, il est mort. Il a accompli la grâce, il a été ressuscité. Oh. Vous imaginez ? Notre liberté a été accomplie par un homme qui était rédempteur, rançon, justice, grâce. C'est ça ma liberté. Je l'ai obtenue grâce à lui et par son sang, ses souffrances uniquement. Pas grâce à mes efforts. Jean 1, verset 29, il dit, le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Qui enlève. Et c'est la première fois qu'on emploie le mot « ôte ». Dans la version seconde, c'est traduit « celui qui ôte, qui arrache le péché du monde. » On a offert tout un tas de sacrifices jusqu'à Jean. Mais il n'y en avait qu'un qui était bon. Un qui, une fois pour toutes, enlevait le péché du monde. Jésus. Et Jean l'annonce. Il dit, le voilà. Alors ce qui est incroyable, c'est que nous avons reçu la facture. La facture, c'est que nous sommes le prix de la facture, c'est que nous sommes mis séparés de Dieu. Sans Dieu, sans amour, sans espoir. Et que d'un seul coup, nous vient une nouvelle. Tu es acquitté, quelqu'un a payé, tu es libéré, tu es même devenu riche d'un seul coup. Waouh ! C'est ça le prix de ma liberté. 2 Corinthiens 8, 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et regardez bien, « Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que par sa pauvreté, vous deveniez riche. » Qui d'entre nous, un jour je crois que je vous avais promis un chèque de je ne sais plus combien, 6 000 euros. Jamais fait, hein. Rassurez-vous pour les visiteurs, je ne fais pas ce genre de chèque. Jésus, Dieu, celui qui possède toutes choses, celui qui a toute autorité, tout pouvoir, il a accepté de devenir pauvre pour que je devienne riche. Vous imaginez l'écart ? Est-ce que quelqu'un serait prêt aujourd'hui à devenir pauvre pour qu'un autre devienne riche ? Je ne veux pas dire que je doute de vous, que je doute de moi, mais je ne sais pas si quelqu'un accepterait de le faire. Mais notre Dieu l'a fait. Jésus l'a fait. Et on a l'image de cette vieille dame, cette pauvre vieille, qui elle donne de tout son bien pour l'offrande à son Dieu. Mes amis, dans l'offrande, il y a un mot qui vient avec offrande, c'est souffrance. C'est pas surplus. C'est quelque chose d'important. On raconte l'histoire, j'ai raconté ce matin à ma famille, l'histoire de ces enfants qui, dans leur classe, avaient un petit handicapé et qui avaient beaucoup de mal à l'accepter, cet handicapé. Et en plus, il annonçait qu'il était chrétien. Et puis un jour, le professeur demande aux enfants, « Écoutez, sortez dehors et donnez, ramassez dans votre petite œuf de Pâques. » Tout ce qui vous semble donner ou magnifier la vie. Alors, tous les enfants ont couru dehors, ils ont mis de l'herbe, des fleurs, ils ont attrapé des papillons et tout ça. Puis ils sont revenus, puis chacun dépiautait son œuf en disant, voilà, ça ressemble à la vie, ça ressemble à la vie. Et puis on arrive au petit handicapé, on lui dit, et toi, t'as mis quoi dans ton œuf ? Alors le professeur vient, il tire l'œuf, il n'y a rien dedans. Il dit, oh, il n'y a rien qui est la vie pour toi, il n'y a rien qui est important. Alors le petit garçon de regarder le professeur et de lui dire, mais vous savez, monsieur le professeur, la tombe, elle, elle était vide. Et c'est parce que la tombe était vide que j'ai la vie. C'est parce que la tombe est vide, pas parce que je viens mettre des fleurs à quelqu'un qui est mort. Mais la Bible dit que Jésus n'est pas dans ce tombeau. Qu'il est vivant. Qu'il a repris sa place. Qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Ah, mes amis, la tombe est vide. Et dans cette tombe vide, je peux lire, tu es libre. Tu es acquitté, j'ai payé la dette. L'acquittance certifie qu'il n'y a plus rien à payer. Reste dû, zéro. On aime ça, hein? Vous aimeriez bien recevoir votre fiche d'impôt, hein? Avec marqué reste dû, zéro, parce que quelqu'un a payé. Jésus a fait une déclaration dans ces trois mots. Et j'ai marqué là que cette déclaration, elle était bien plus grande que celle des droits de l'homme et du citoyen. C'est un manifeste, une déclaration de principe et d'intention, un credo, une profession de foi. Tout est accompli pour moi à Golgotha. Jésus est mort, il a tout fait. Son Père l'a ressuscité, c'est ce qu'il avait dit qu'il ferait. Oh mes amis, ça change pas votre vision. Vous êtes d'un seul coup pas un mineur du Chili qui d'un seul coup retrouve la vie après deux mois dans sa mine de charbon où tout est noir. Luc chapitre 4 verset 18 nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs quoi ? La délivrance. Aux aveugles, le retour à la vue. » Pour renvoyer libres les opprimés. Êtes-vous libre de ne plus pécher? Êtes-vous libre d'aimer? Êtes-vous libre de dire des bonnes choses aux autres? D'annoncer une bonne nouvelle? On aimerait que le matin, quand on écoute les actualités, il y ait des bonnes nouvelles. Mais on les cherche. Elles sont dans les promesses. Jean 8, 36, si donc le Fils vous rendra, vous rend libre, vous serez réellement libre. Nous avons été libérés du poids de notre péché. Nous avons été libérés de ce mur qui nous séparait de Dieu. Nous sommes devenus libres d'être des citoyens des cieux, des gens mis à part. Notre liberté. Elle nous libère de l'esclavage. Le psaume 107:16 dit, car il a brisé les portes de bronze, il a cassé les verrous de fer. Vous savez que pour sortir de l'enfer, il y avait une porte avec un verrou qui disait, tu dois rester là. Et parfois, nos péchés, c'est un peu comme ça. Ils sont tellement là que quand on veut les rejeter, ils nous collent à la peau, ils reviennent. Mais Jésus a cassé ça. Nous sommes devenus ses esclaves. La liberté nous a libérés des œuvres du diable. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de... Lisez le verbe avec moi.
C'est marqué quoi ?
Détruire. Détruire. Il ne vous les laisse pas là en tas. Vous savez ce qui est intéressant des fois, c'est quand on se débarrasse de choses nocives... On les met à la poubelle, ou on les met dans un endroit où on dit peut-être que ça intéressera quelqu'un d'autre. Et bien ce qui est intéressant, c'est que le péché, Dieu, il l'a enlevé. Il l'a jeté dans la mer au loin, il a mis un grand panneau, il a dit « pêche interdite ». C'est ça ma liberté. Mes amis, Pâques, c'est un jour de grâce extraordinaire. Qui me rend libre ? Peut-être j'ai du mal, des fois on a la poitrine qui nous étreint, en se disant, oh là là, c'est lourd. Et la troisième chose que Jésus, dont Jésus nous délivre, c'est la mort. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie, celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et dans le contexte, vous vous rappelez là, c'est Jésus qui parle à propos de Lazare. Et Lazare, pour l'instant, il est dans la tombe, et même il est dit qu'il commence à sentir. Et Lazare, il est ressuscité, vous savez. Mais vous savez que Lazare, il est mort à nouveau, il est remort. Mais il est vivant. Et tous ceux qui sont morts en Christ sont vivants. Ils ne sont pas morts. Ils ressusciteront. Et nous ne les devancerons pas. Alors, conclusion. Êtes-vous libre? Avons-nous été libérés du péché, de la méchanceté, de la haine, des remords, de l'agressivité, du péché qui nous entoure si facilement? Pour nous rendre libres, voilà ce qu'il a fallu, l'obéissance du Fils de Dieu. Son obéissance. Il a fallu qu'il paye, que le Rédempteur paye lui-même la rançon. Il a obéi, il a payé la dette lui-même. Et regardez bien, il a fallu qu'il crie, tout est accompli. Pour que ses disciples et le monde présent entendent que quand ils ont crucifié Jésus-Christ, ils ne faisaient rien qu'ils avaient initié eux-mêmes. Mais ils accomplissaient juste la parole de Dieu, qui avait déjà planifié cet événement de Pâques 33. Ha ! C'est incroyable, hein ? Il y en a, ils essayent de trouver des signes dans l'Écriture, des nouveaux façons de compter, des nouvelles façons, un code, le code biblique de Michael Dronin. Le code, il est en trois mots. Tout est accompli. Il y a maintenant l'invitation du roi. Parce que quand le roi nous rend libres, il nous invite. Et voilà ce que dit le prophète Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même ceux qui n'ont pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Voilà l'invitation à la fin. Le Sauveur, le Seigneur, est mort à ma place. Il a payé ma dette. Il a annoncé, j'ai déjà tout payé. Alors, mes amis, nous avons reçu cette quittance. À payer le prix de la séparation, reste du zéro à quitter. C'est ce que Dieu a fait avec chacun de nous, pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a été chercher la quittance? Est-ce qu'on a reconnu que c'est vrai? J'étais, je suis, ma vie est encore en tel désordre, Seigneur. Le Seigneur me dit, j'ai déjà tout payé, tu sais. Arrête de vivre comme s'il y avait encore des choses à faire. Jésus est ressuscité, mes amis. Il est vivant. La mort n'a pas pu le retenir. Les autorités toutes puissantes n'ont pas pu le retenir. N'ont même pas pu bloquer son tombeau. Elles avaient mis des gardes militaires là, à sa porte. Mais il est sorti. Alors, j'aimerais relancer ce message, mes amis. Nous ne sommes plus obligés de pécher. Vous le savez? Nous ne sommes plus obligés d'être tristes. D'être comme tout le monde, qui n'a point d'espérance, comme dit la première épître aux Thessaloniciens. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle, vous êtes libre. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu es celui qui a tout payé pour nous. Tu es celui qui a voulu se réconcilier avec moi et surtout a voulu que ma vie soit réconciliée avec celle de mon Père. Et je veux te louer une fois de plus pour cette Pâque. Merci d'avoir accepté la souffrance. Merci d'avoir accepté l'humiliation. Merci d'avoir accepté d'être séparé de ton Père pour un moment, à ma place. Seigneur, j'ai honte. J'ai honte que tu aies dû supporter toutes ces choses. Seigneur, j'ai honte que mon péché t'ait conduit là. Mais Seigneur, je ne peux pas changer le passé. Par contre, Seigneur, je sais que je peux changer le présent. Parce que grâce à toi, Seigneur, j'ai la vie. Grâce à toi, je suis libre, libéré. Libéré de l'obligation d'obéir au diable. Libéré de cette obligation de pécher journellement, de céder au chantage, de laisser vivre ma vieille nature. Seigneur, merci. Merci de me libérer de ces choses. Merci de me rendre humble suffisamment pour reconnaître ces choses et pour saisir ta quittance. Et Père, aujourd'hui, en ce jour de Pâques, je voudrais proposer à ceux qui ne sont pas libres, à ceux qui sont encore derrière ces portes d'airain, à ceux qui ont encore ce verrou fermé, à qui le cœur n'a pas été ouvert, à qui les yeux du cœur sont encore obnubilés par leur péché, de s'approcher de toi. Si ce matin c'est votre cas, mes amis, si vous êtes encore derrière la porte, si vous pensez qu'il n'y a aucun moyen de communication, Jésus vous rappelle ce matin, j'ai payé à votre place. Je veux vous rendre libre. Si c'est votre cas, tout simplement, là où vous êtes, vous dites, oui, je veux. Je veux accepter. Je veux cette liberté que Dieu me donne. La liberté des enfants de Dieu. La liberté que je ne mérite pas, j'ai bien conscience. Mais que Dieu m'offre. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Un jeune, un moins jeune, un homme, une femme, qui aimerait se saisir de cette liberté que Dieu offre. Oui, oui. Oui, que Dieu vous bénisse. Et puis peut-être, à nous qui avons été libérés, à nous qui disons clairement et hautement que nous sommes chrétiens, mais qui sommes encore enferrés dans ces péchés, dont la vie n'est pas en règle. Nous vivons en concubinage, nous pratiquons le péché, nous avons des choses dans notre vie qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et nous nous demandons comment nous défaire de ces choses. Jésus ce matin nous rappelle, j'ai payé. Viens à moi. Y a-t-il des amis ce matin qui aiment être libérés aussi de cette vie difficile, de cette vie où ils ne glorifient pas leur Dieu dans leur vie? Il n'y a aucun jugement, mes amis. Dieu veut juste se rapprocher de vous, parce que lui ne vous a pas quitté. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut juste prendre sa main? Oui, que Dieu te bénisse, oui, que Dieu te bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Oui, Seigneur, tu vois, en ce jour de Pâques, il y a de la joie. Parce que ta parole ne revient pas sans effet. Ta parole est vraie, Père. Et je te prie pour ceux qui, ce matin, ont accepté que tu casses ces portes d'airain qui le retenaient, qui enlèvent ces verrous, que tu leur donnes un libre accès comme tu l'as promis à ton Père. Je te prie pour ceux qui sont tes enfants, Seigneur, et qui ont du mal aujourd'hui, ils viennent vers toi dans une attitude d'humiliation, d'humilité. Mais Seigneur, que tu leur donnes, que tu les touches d'une manière toute particulière et qu'ils redécouvrent cette liberté que tu donnes. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci parce que tu le fais pour ta gloire et par ta grâce. Amen.